άλλο έχει χρησιμοποιήσει ο Κασόγρα και ρίχνει το τάλμα σε τη
Avoir un emploi est devenu une exception, tandis que faire partie des chômeurs est la règle générale, constate Antoine, qui nous écrit de Kananga. Avelin de Bougna de renchérir, à quoi bon étudier si au bout du rouleau on demeure sans emploi? Joseph de Bougna de se questionner, pourquoi exiger plus de 5 ans d'expérience? Et Pépé de Kisangani d'ajouter, pour trouver un emploi, il faut un piston à qui il faut remettre 40% de son salaire pendant 3 mois. Toutes ces préoccupations et inquiétudes viennent de nos auditeurs. Accéder à un emploi est devenu un casse-tête pour la plupart des Congolais. Les conditions de recrutement deviennent de plus en plus rigoureuses. Parole aux auditeurs, on parle aujourd'hui en marge de la Journée internationale du travail célébrée la semaine dernière, le 1er mai. Les questions, quelle est la situation chez vous et que faut-il faire pour l'améliorer? Nous avons invité pour vous Madame Angélique Kikuzi. Elle dirige l'Office national de l'emploi en sigle ONEM. Pierre Lamégi, Tissine Poutou, sous la supervision de Ben Kabamba, sont à la réalisation de cette émission. Guiman Gangou est à la mise en onde.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocati.net.
Aujourd'hui, Parole aux auditeurs se penche sur l'accès à l'emploi, surtout les conditions de recrutement. Nous avons déjà Eric qui est à Kamina dans le Katanga au bout du fil. Bonjour Eric.
Bonjour madame.
Dites-nous Eric, quelle est la situation chez vous?
Ici à Kamina, c'est trop difficile en tout cas pour trouver un emploi.
Mm-hmm.
On ne sait pas à quel sens c'est vous et même il y a beaucoup de chômeurs ici. Si on essayait de donner les statistiques, c'est peut-être 20 ou 18 ou 19% des gens qui ont accès à l'emploi, mais les autres, même si vous avez terminé l'université ou quoi, trouver l'emploi, c'est difficile.
Il n'y a pas de poste ou bien ce sont les conditions qui sont difficiles pour accéder, ou bien vous êtes plus nombreux que les postes qui sont proposés?
Nous sommes nombreux, mais par rapport aux postes, les postes sont minimes, mais les gens sont nombreux.
Mmh.
Et il n'y a ni ville, ni société ici à Kamina. C'est difficile vraiment.
Et pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'emploi, que tout le monde puisse accéder à l'emploi?
Il faut que l'État vraiment se penche à ces problèmes, sinon c'est grave. C'est à l'État de créer les emplois. Mmh. On nous parlait de 5 chantiers, mais ici à Kamina, c'est invisible jusqu'alors.
Merci Eric pour votre intervention. Nous allons à Kalemie, nous restons dans la province du Katanga où se trouve Salé. Bonjour Salé.
Bonjour.
Salé, on vous écoute.
Oui, je veux partir d'un constat amer. Mm-hmm. D'ailleurs, les soi-disant, les ONG qui nous amènent des emplois ici violent le code du travail congolais. Alors, on constaterait qu'ici, lorsqu'on affiche une offre d'emploi, il y a des exigences religieuses. Il faut être chrétien. Alors, c'est en violation grave du code du travail congolais. Et qu'il stipule que nul ne peut être lésé dans son travail à raison de ses origines, de son sexe ou de ses croyances.
Mm-hmm.
Tout Congolais a le droit de contribuer pour son travail à la construction et à la prospérité nationale. Alors, on se pose la question, pourquoi de différentes entreprises, des différentes organisations internationales et nationales, et se permettent de violer le code du travail congolais. Mais le gouvernement congolais lui-même, qui est l'emploi, qui est l'un des 5 sanctions de la République, on se pose la question, notre gouvernement, qu'est-ce qu'il attend pour créer les emplois pour les Congolais?
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'il attend pour arranger, pour harmoniser ou bien attirer les investisseurs pour venir investir au Congo, permettez-moi la technologie, pour venir investir et permettre à la génération, au futur, dirigeants, aux cadres qui sont formés dès chaque année, l'université produit, l'école primaire, l'école secondaire produit. On dit non parce qu'il faut faire une école professionnelle. Il y a des gens qui ont fait des écoles professionnelles, mais sans boulot. Alors on se pose la question, ben, qu'il fait notre gouvernement? Le gouvernement doit s'assumer, doit prendre ses responsabilités afin de sauvegarder la société. Parce que si la société n'a pas d'emploi, on dit que non, c'est la société qui est morte, sans avenir. Alors la population est vouée à son propre sort.
Donc vous pensez que c'est l'État qui doit organiser, qui doit donner de l'emploi aux populations?
Il y a encore l'État, parce qu'il est dans les possibilités de créer des emplois. Il doit favoriser le climat des affaires. Parce que si au moins l'État favorisait le climat, que les investisseurs arrivent au Congo, investissent, là il y aura une réduction sensible de la pauvreté. Imaginez-vous, madame, une personne qui veut ouvrir son entreprise et se retrouve à affronter 50 taxes, 50 bureaux de l'État. Alors, les investisseurs fouillent. Alors, quelles sont les conséquences qui arrivent? C'est le chômage qui augmente et on se pose la question, quand les ONG se retireront de notre territoire, alors on se dit, il n'y a pas d'entreprise. Ça sera de la pure catastrophe.
Merci beaucoup, Salé, pour votre intervention à partir de Salemi, dans la province du Katanga. Vous pensez que l'État doit favoriser la création de l'emploi? Nous avons Charles à Bounia. Bonjour, Charles.
Oui, bonjour Marie-Chantal, c'est Charles de la partie de Bounia.
Oui, est-ce que vous êtes du même avis que Salé de Kalemi, qui pense que c'est l'État qui doit favoriser la création de l'emploi?
Oui, merci beaucoup Marie-Chantal. En effet, afin de corroborer l'avis de mon confrère du Katanga, donc Kalé, je pense qu'il faut tout d'abord arriver à créer un cadre tout d'abord qui devait inciter beaucoup de jeunes qui se retrouvent aujourd'hui dans la rue, mais aussi ceux qui sont sur des degrés, d'autant plus qu'il faut tout d'abord voir certaines mesures au préalable, telles que les recrutements qui devaient être plus ou moins efficaces, en respectant certaines procédures pour arriver aussi à un recrutement digne de son nom. D'autant plus qu'il y a des personnes qui arrivent aujourd'hui, le nepotisme, le favoritisme, le confort, et cela n'encourage pas aujourd'hui les jeunes à ressortir de leur état.
Charles, que voulez-vous dire par favoritisme, népotisme? Vous avez un témoignage, comment ça se passe? Expliquez-nous pour qu'on puisse comprendre.
Oui, concrètement, moi, Marie-Chantal, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, s'il faut trouver un emploi, il faut recourir soit à votre cousin et à votre frère et tante, et au moins pour retrouver de l'emploi. Donc, c'est quelque chose qui n'encourage pas la qualité même de l'emploi, après la fin que la production ne devait être aussi en fonction le travail qui est fourni en moins l'employé. Et l'emploi est aussi l'effort physique ou intellectuel qui est fourni à travailler au travers de son organisation. Je pense que pour terminer, je vais émettre quelques recommandations, propositions à ceux qui sont au niveau du service, mais aussi aux dirigeants qui se retrouvent au niveau du gouvernement, puisqu'ils doivent promouvoir un cadre de partenariat et aussi inciter en moins le système d'entrepreneuriat, que ce soit privé ou public, aussi que chacun de nous apprenne un travail, et à trouver au moins quelque part où il doit trouver une indépendance tout au plus qui devait lui aider à retrouver un gain et ressortir de ses besoins pour mon Dieu.
Merci beaucoup Charles pour votre intervention, vos propositions. Vous êtes intervenu à partir de Bounia, où vous nous suivez sur 104.9 FM. Nous allons au centre du pays où se trouve Neville. Bonjour.
Bonjour, Maman Chantal.
Les villes, on vous écoute.
Oui, Maman Chantal. Moi, je pense que je suis très souvent contre ceux qui disent qu'il n'y a tellement pas d'emplois. Les emplois existent, quel que soit le faible taux, mais il y a certainement des emplois. Mais il se pose un réel problème de la politisation des emplois. C'est-à-dire, si on n'est pas d'un tel parti politique, on ne peut pas être engagé. Ça, c'est le prime abord. Deuxièmement, il y a un problème aussi du tribalisme. Il y a un problème de tribalisme, parce que celui-ci, c'est mon petit frère, même s'il n'a pas les qualités requises, même dans les recrutements, il n'y a pas le respect des profils. Alors, on ne tient pas compte de ce que nous appelons des rights men ou des rights place. C'est-à-dire, on doit prendre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ainsi, aujourd'hui, même ceux qu'on engage ne semblent pas vient multiplier leurs travaux, tout simplement parce que on n'a pas tenu compte du recrutement. Donc, il y a un problème au niveau d'abord du recrutement. Mm-hmm. En plus de ça, dans les emplois, il y a encore un problème de tendance religieuse. Parce que celui-ci est mon frère, en Christ, j'ai pris avec lui dans telle ou telle autre église, alors je dois les favoriser, tellement que je suis encore ici, frère, venez, moi je vais vous aider. Donc mm-hmm. c'est un problème actuellement.
Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que cela change, pour que tout le monde puisse accéder à l'emploi, parce que quand même la constitution stipule que tout Congolais a droit à l'emploi et que, en tout cas, c'est un droit sacré et un devoir pour chaque Congolais.
Oui, moi je pense que c'est qui est beaucoup plus souhaitable, c'est le respect du code de travail. Hein. Il faut respecter parce que le recrutement est réglementé. Il faut tenir compte de tous les profils. Alors, et aussi, d'une part, il faut que l'État puisse augmenter les volumes d'emploi. Le volume est très faible. L'État doit faire tout pour occuper beaucoup de cadres qui ont beaucoup étudié. En plus de ça, il faut qu'on évite les antivirus tels que la corruption dans le travail. Mm-hmm. Il faut qu'on évite la politisation des emplois, les tribalistes dans les emplois. Donc, si on mettait un peu sur pied les petites recommandations que je viens de donner, j'espère très prochainement que les emplois peuvent avoir leur sens d'être ici en République démocratique du Congo.
Merci, Neville. Vous venez de donner vos propositions, vous êtes exprimé sur ce sujet, accéder à l'emploi ici en RDC, qui est devenu vraiment très, très difficile. Vous avez donné votre avis. Encore une fois, merci pour votre intervention à partir de Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour Léon.
Bonjour. De mon avis, moi,
vous êtes à Béni,
le gouvernement a le devoir de chercher au lieu de favoriser les conditions de l'accession au travail. Comme nos prédécesseurs ont déjà dit, moi je dirais que le gouvernement n'a pas seulement le devoir de créer des emplois, mm-hmm. mais d'améliorer les conditions de vie. Mm-hmm. Il y a des gens que nous voyons déjà dans la fonction publique, les conditions de vie ne permettent pas aux autres qui sont à l'extérieur d'accéder au travail. Là, puisque l'État n'arrive pas à attirer ou bien à supporter leur vie.
Mm-hmm.
Donc, nous devons obliger d'abord l'État à améliorer les conditions de vie des fonctionnaires qui sont déjà dans la fonction publique pour que les autres qui sont à l'extérieur d'avoir maintenant le courage d'aller maintenant travailler.
Mais
puisque l'État ne fera pas fonctionner ou bien accroître l'économie au moment où les Congolais eux-mêmes ne travaillent pas.
Léon, nous savons tous qu'au niveau de la fonction publique, il y a un problème pour pouvoir retraiter les fonctionnaires qui ont atteint l'âge. Et comment vous pensez qu'on va encore pouvoir recruter si on n'arrive pas à retraiter?
Oui, c'est que moi je dirais, l'État ne doit pas seulement recruter, il faut d'abord améliorer la condition de vie de ceux qui sont déjà là-dedans, et comment retraiter et assurer la retraite de ces gens-là. Et l'État ne doit pas seulement faire la retraite des gens et les laisser maintenant à la merci de comment de la misère.
Mmh. Mais vous savez bien que pour retraiter, ça demande des moyens. Souvent, l'État dit nous n'avons pas des moyens, nous n'avons pas des moyens. Pour vous, quelle est l'issue? Qu'est-ce que vous proposez?
L'État n'a pas des moyens, mais l'État doit quand même encourager peut-être les initiatives privées. Puisqu'il y a des privés qui veulent aussi investir, mais l'État met toujours des bâtons dans les roues.
Mmh.
L'État ne sait pas comment créer aussi des emplois.
Merci beaucoup, Léon, pour votre participation à Béni, votre intervention, vos propositions pour pouvoir accéder plus facilement à l'emploi, comment créer l'emploi. Vous avez fait vos propositions. Merci d'être intervenu à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Nous venons, nous disons bonjour à Madame Angélique Kikoudi qui vient de faire son entrée dans ce studio. Bonjour.
Bonjour Madame Chantal.
Oui, vous dirigez l'Office National de l'Emploi, ONEM. Nous avons déjà pris une série d'auditeurs qui ont donné leur avis sur l'accès à l'emploi, les conditions de recrutement, ce qu'ils pensent concernant ce sujet-là. Il y en a plusieurs qui ont donné leurs avis. Ils pensent que l'État, ils ont constaté que accéder à l'emploi est devenu un casse-tête en RDC. Les conditions de recrutement sont devenues de plus en plus rigoureuses. Il y a tellement de problèmes. Il n'y a même pas d'emploi pour certains. Et d'autres pensent qu'il y a de l'emploi, mais tellement que c'est devenu tribalisé, il y a des tendances politiques, il y a beaucoup de choses qui interviennent, qui ne permettent pas à la population de pouvoir accéder à cet emploi, comme le stipule d'ailleurs l'article 36 de la Constitution, qui montre, qui dit que, en fait, le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Madame, est-ce que vous qui dirigez cette structure, l'ONEM, est-ce que vous avez aussi fait ce constat-là?
Merci madame pour la question. Je salue d'abord tous les auditeurs qui sont très intéressés à la question de l'emploi et qui trouvent que l'État ne fait rien. En fait, tout ça peut se résumer à ça. Non, ne fait pas assez. Je crois qu'il faut recadrer les choses dans leur contexte. L'État congolais, évidemment, est le détenteur du pouvoir et tout. Mais l'État a délégué certains pouvoirs, par exemple celui d'organiser le marché du travail, au ministère qui a notre tutelle, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale. Et l'Office national de l'Emploi n'est que l'organe opérationnel de ce ministère. L'État a certes des entreprises, l'État a certes un plateau d'emploi qu'il offre.
Donc c'est le plus grand.
C'est le plus grand employeur. C'est le plus grand employeur, mais souvent les conditions que l'État donne ne plaisent pas aux jeunes gens. J'ai vu beaucoup qui sont venus, quand on leur a dit les conditions dans lesquelles ils vont travailler, ils disent « Ah non, 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 moi l'État, pas question ». Ils sont très sélectifs dans leurs choix et malheureusement, ils tombent sur des choix où les gens sont très exigeants. Et là, l'État n'a plus rien à dire, il ne fait que l'intermédiation. Il offre un plateau de demandeurs d'emploi qui ont des compétences, qui on suppose ont les compétences que les employeurs exigent, mais malheureusement, ce n'est pas l'État ne peut rien imposer à ces entreprises. Les entreprises font l'interview, ils engagent ceux qui répondent favorablement aux critères qu'ils ont fixés. Et comme je le dis souvent aux jeunes demandeurs d'emploi, les bons, les meilleurs sont toujours pris, quelles que soient les conditions. L'expérience, là, c'est des prétextes que les entreprises avancent. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas donner aussi des conditions où on peut entrer comme dans du beurre. Ils mettent un peu des difficultés pour que les gens viennent se défendre. Et souvent, malheureusement, nos jeunes qui ont des diplômes, qui sont très intelligents parce qu'ils ont répondu aux examens et tout, n'arrivent pas à soutenir une interview d'emploi, n'arrivent pas à écrire, à rédiger une bonne lettre de motivation. Nous sommes dans le processus de les réencadrer pour ça. Quand ils doivent présenter un CV, écrire une lettre de motivation et même se présenter à l'interview, ils peuvent revenir à l'ONEM. L'ONEM peut les réarmer pour cela et ils se présenteront, je crois qu'ils peuvent avoir l'emploi.
Oui, nous allons continuer à prendre certains de nos auditeurs qui sont déjà au bout du fil. Il y a Linda à Kolwezi. Bonjour Linda.
Ma question est ceci.
Oui, Linda.
Ma première, je voulais demander d'abord, il y a des universitaires qui sont en train de terminer leur études. Alors, est-ce que l'État a déjà commencé à ça au nombre d'abord de licenciés? Est-ce qu'il y a, des emplois qui seraient alors portés ou bien?
Merci beaucoup, Linda.
La deuxième question, c'est...
Oui, on vous écoute.
Oui, aussi, chez nous, il y a une chanson que des musiciens comme vous, il y a un collégien qui a chanté à chaque fois. Et c'est qui aussi, à chaque fois, ça veut dire de ma tribu, quoi. C'est une fascination que cette personne-là, qui a cette actrice-là, a fait. Mais le problème, en est que ça fait 3 mois qu'elle a chanté, ça. Aucune réaction. Ce n'est que l'amusement, ce n'est que quoi. Je ne sais pas si c'est comme la distraction que nos dirigeants, je ne sais pas, tous les Congolais sont en train de prendre ça.
Donc vous pensez, Linda, vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois pour résorber tous les étudiants qui ont fini leur université, institut supérieur, les élèves, vous pensez qu'il n'y en a pas suffisamment?
Il n'y en a pas, oui, parce qu'ils sont en train de diplômes, il y a plein de diplômes, ils sont en RDC, mais on ne voit pas est-ce qu'il y a l'avenir, tout ça.
Merci beaucoup, Linda, pour votre intervention. Vous avez posé une question précise. Vous voulez savoir est-ce qu'il y a assez d'emplois? Est-ce que l'État pense, a prévu? Parce que diriger, c'est prévoir. Est-ce que c'est fait au niveau de notre gouvernement? Merci pour votre intervention. Il y a Gervais qui nous a écrit à partir de Kanyabayonga au Nord Kivu. Ma préoccupation réside au niveau où les nouveaux détenteurs de diplômes doivent continuer à chômer tout en les conditionnant par des expériences de tout au moins 5 ans. Ce n'est pas un moyen de maintenir les mêmes personnes au boulot pour du bon et développer un chômage prolongé en RDC, alors que l'article 36 de la Constitution dit que tout Congolais a droit à un travail. Donc, il est du même avis que Linda de Kolwezi. Il y a aussi un autre auditeur, Pépé de Lisungi à Kisangani, il écrit ceci. La situation de l'emploi à Kisangani est très difficile, donc pour avoir l'emploi, il faut avoir quelqu'un qui est très influent ou une connaissance avec connaître des autorités qui recrutent les gens. Et aussi, il faudrait accepter qu'on puisse défalquer 40% de votre salaire pour les 3 premiers mois de l'emploi. Donc, pour cela, pour que ça puisse prendre fin, il faut qu'il y ait beaucoup d'emplois. Donc, le gouvernement se charge, sinon les choses vont continuer sur la même lancée. Madame, vous avez suivi nos auditeurs qui se plaignent, ils ne sont pas rassurés. Ils ont l'impression que c'est toujours le même système qui continue, difficile d'avoir un emploi. Il y a des personnes qui n'arrivent toujours pas à pouvoir leur donner suffisamment de l'emploi. Donc c'est un problème qui se pose.
Oui, et ils se doivent d'être éclairés sur la question. Mademoiselle Linda a posé une question bien claire. On est toujours sur le marché des diplômés. Est-ce qu'il y a assez de boulot? Je pense qu'il y a un problème de dysfonctionnement. C'est l'Office national de l'emploi qui devrait demander le nombre de diplômés sur le marché en disant « J'ai ça sur le marché, il me manque ça. » Et on match les deux et on diplôme les gens. Mais il y a un dysfonctionnement entre le nombre de diplômés qui sont en surnombre. Vous avez vu la naissance comme des champignons des universités. Il y en a qui sont même agréés, d'autres pas, mais qui ont continué à donner des diplômes. Mais pour quelle finalité? Je pense que nous devons partager les responsabilités. Les universités ne peuvent pas former à qui tout va des diplômés comme ça, sans but. Il faut que ça réponde à un besoin du marché. Mais quand les étudiants vont s'inscrire à l'université, ils se posent même pas la question ça, où ça va les mener, où leur diplôme va les conduire.
Mais pour l'instant, les besoins que vous avez, les nombres que vous avez des personnes, des chômeurs à qui vous avez donné des cartes de chômeurs, ils sont nombreux de combien en rapport avec les postes?
Ils sont très nombreux, madame. Je pense que 80% de la population active est au chômage, mais je crois que c'est de ces 80%, il n'y a que 40% qui sont venus prendre la carte de demandeur d'emploi. Et sur base de ça, nous ne pouvons pas faire des propositions, parce que nous allons exclure un grand nombre d'entre eux. C'est pour ça que le ministre, le vice-premier ministre qui a la charge de l'emploi, le travail et la prévoyance sociale, a demandé. Nous sommes en train de faire une large campagne d'enregistrement de chômeurs. Il ne faut pas que les demandeurs d'emploi disent « Non, nous avons des cartes, on ne trouve jamais du travail. » Il faut qu'ils viennent s'enregistrer pour qu'on sache exactement ils sont combien et quels sont les besoins qu'on doit satisfaire de tout ce monde. On ne peut pas penser pour une personne, il faut penser pour toute une population, et nous n'avons pas encore assez d'enregistrement de ce côté-là. Donc, les demandeurs d'emploi doivent venir s'identifier. On est chômeur, demandeur d'emploi, que quand on vient s'identifier au niveau de l'État. Ça, c'est une chose. La deuxième question, Linda criait tellement fort que je n'ai pas pu saisir. Il y avait un bruit du fou dans mes oreilles. Oui, je sais que la question a beaucoup d'intérêt.
Oui.
Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait par rapport aux musiciens. Bon, je ne sais pas répondre. Alors, par rapport aux deux autres demandeurs, l'un à Goma, je crois, et l'autre à Kisangani, je pense que leur marché est dominé par la présence des organisations non gouvernementales étrangères.
Oui.
Des ONG internationales qui sont là, qui se conforment très bien, parce que la loi dit que quand il y a un emploi, il doit venir à l'ONEM présenter l'offre. Et l'ONEM présente une liste de candidatures, c'est ça la recommandation qu'on appelle à l'ONEM. Et quand vous allez vous présenter là-bas, si vous réussissez à l'interview, vous pouvez être pris. Et je pense que je parle pour ces organismes, ils sont assez crédibles, ils sont impartiaux.
Mais par rapport à cela, il y a un auditeur qui nous a tout au coco.
On a révélé une recommandation spéciale.
En fait, il a constaté que ces ONG, parmi elles, il y en a certaines qui violent carrément les lois. Par exemple, une ONG qui tient compte dans les conditions de recrutement, par exemple, de demander votre religion.
Ah, ça, je ne peux pas répondre pour cette ONG-là, mais il faut qu'elle connaisse comment vous vous comportez dans la vie pratique. J'imagine que c'est
donc
possible.
Donc,
si des cas pareils sont signalés, il faut qu'on les reporte à l'État et l'État saura prendre les sanctions qui s'imposent.
Mm-hmm.
C'est qu'il y a, les ONG sont là, ils sont venus selon des accords internationaux, que notre pays a signé. Ils ont leurs exigences auxquelles parfois nous ne pouvons rien. Ce qu'ils doivent faire, les demandeurs d'emploi, c'est essayer de savoir quelles sont les exigences de ces ONG. S'ils constatent un abus, ils doivent le signaler. Et là où ils peuvent s'améliorer pour répondre aux exigences de ces ONG qui emploient, qui donnent de l'emploi, il faut qu'ils essaient de relever leur niveau ou de se mettre à niveau pour être employés. Il y a bien de Congolais. Ici à la Monique, j'ai vu des tas de jeunes Congolais qui ont trouvé du travail. Personne ne les a recommandés. J'ai vu comment s'est fait le recrutement. Évidemment, il n'y a pas que du bon côté. Mais ce sont des jeunes qui sont là.
Oui, nous allons d'abord écouter les auditeurs. Qui voudrait aussi s'exprimer sur la question. Nous allons revenir à vous, madame. Il y a Sylvain qui est à Bounia et Alphonse à Matadi.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour Sylvain. Sylvain? Sylvain, on n'arrive pas à joindre Sylvain, nous allons revenir à Sylvain qui est juste après. Bonjour Alphonse.
Bonjour.
Alphonse, vous êtes à Matadi, on vous écoute.
Le sujet que vous êtes en train d'aborder, c'est un sujet complexe.
Mm-hmm.
L'invité d'aujourd'hui, elle dit des choses vraies, mais je ne suis pas d'accord avec elle à 100%.
Mm-hmm.
Nous devons quand même avoir le courage de dire des choses clairement. C'est vrai que dans les universités, il y a des jeunes gens qui sortent de là, qui n'ont pas, qui ne sont pas vraiment à point, mais il y a aussi ceux-là qui ont des capacités, qui sont capables de se défendre.
Mm-hmm.
Il ne faut pas se voiler la face, c'est connu qu'au Congo pour trouver des emplois, il faut être connu par un politicien, il faut avoir la recommandation d'un politicien. C'est connu de tous, nous vivons ça ici. Et même les concours qu'ils offrent, ils font les interviews. Mais ce sont des formalités, des simples formalités. Vous y allez, pendant qu'ils avaient déjà recruté les gens, madame le sait. Il ne faudrait pas qu'on puisse donner l'impression. Nous devons avoir le courage de dire les choses tout haut. Regardez dans les cabinets des deux ministres, que ce soit au niveau national ou au niveau des provinces. Mais qui sont là, ce sont des membres des familles, ce sont des copines, ce sont les bureaux qui sont là. Madame le sait aussi.
Mm-hmm.
Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes gens capables. Ils sont là, les jeunes gens capables. Mais ils n'ont pas de relations pour qu'ils soient engagés.
Mm-hmm.
Alors, non seulement l'État doit créer de l'emploi, mais l'État doit créer aussi à ce que les recrutements soient un recrutement objectif.
Merci beaucoup, Alphonse, pour votre intervention. Vous pensez, vous décriez, en fait, ce qui se passe sur terrain. Vous êtes sur terrain, vous avez vécu cela. C'est un témoignage que vous êtes en train de donner, Alphonse, à partir de Matadi. Il y a Rafiki Eider qui nous écrit à notre adresse internet pa@radiookapi. Il nous écrit à partir de Bukavu. Les opérations qu'on effectue à l'ONEM ne sont que des formalités, car dans ma ville, je n'ai jamais vu une personne trouver un boulot grâce à l'ONEM. Je crois qu'il est grand temps que l'administration publique arrête de tromper la population en général et que les demandeurs d'emploi en particulier, en essayant de mettre de l'ordre dans ce secteur très, très précis. Il y a aussi Joseph qui nous écrit à partir de Bukavu. On n'est pas embauché parce que conformément aux critères, on a mérité, mais plutôt parce que dans la lettre de motivation, on a pris soin de préciser « J'ai mon oncle, cousin, père, ami, chef et non le traditionnel mot « J'ai l'honneur ». Et s'il faut tenir compte des expériences professionnelles exigées, aucun jeune diplômé ne sera embauché. Et pourtant, l'apprenti ne peut-il pas des fois apporter plus qu'un expérimenté? Comment faire pour améliorer? Que l'Office national de l'emploi ne se contente pas seulement d'apposer son cachet sur les affiches, mais vérifie aussi les conditions pour les postes et s'impliquer dans l'embauche des jeunes. Il faut une véritable politique de l'emploi, que l'inspection du travail fasse son travail de contrôle des contrats de travail pour dénicher les supercheries et favoriser les conditions de travail des travailleurs et pour aussi valoriser le rôle des syndicats dont les droits sont continuellement bafoués par les employeurs. Voilà autant de questions, autant de préoccupations qui sont soulevées par les auditeurs. Nous prenons un autre auditeur de Colosie, ce sera le dernier de cette deuxième série. Bonjour Jean.
Bonjour, merci, bonjour à l'invité.
Oui, on vous écoute Jean.
Madame, certainement au Congo nous avons beaucoup de diplômés, beaucoup de licenciés, mais tout ceci ne fait qu'amplifier le chômage.
Mm-hmm.
Tout ça suit aux appels d'offres qui exigent d'avoir 3 ou 5 ans d'expérience de métier. Ça, je n'en disconviens pas. Là, je voulais tout simplement demander au gouvernement s'il puisse s'impliquer sur cette affaire. Parce que nous avons un code du travail, mais ce code ne jouit pas de sa force d'application. Donc l'État doit s'impliquer sur cette affaire pour mettre fin à ce fléau, madame.
Merci beaucoup, Jean, à partir de Colosi.
Merci.
Parole aux auditeurs.
Madame Kakuti, plutôt Kikudi, merci pour cette correction. Madame Kikudi, vous avez suivi nos auditeurs, une réaction, parce qu'on accuse là l'ONEM que ce sont que des formalités, que sur terrain, peut-être que vous êtes dans votre bureau et que sur terrain il y a autre chose.
Non, je ne suis pas que dans mon bureau, la preuve que je suis ici pour parler, que les jeunes m'écoutent et les autres demandeurs d'emploi. Tout à l'heure, quand j'ai demandé de prolonger ma réponse, vous avez dit non, et pourtant la même question est revenue. Il y a un auditeur qui avait dit que ce sont des agents qui les placent, qui demandent 40% de leur salaire pendant 3 mois. Ça, ce sont ceux que nous appelons agences privées de placement. Ce sont des opérateurs qui œuvrent là, qui devraient le faire. Oui, ça existe, mais ce n'est pas l'ONEM. Ce sont des auxiliaires de l'ONEM qui œuvrent comme opérateurs économiques, qui facilitent le placement et qui ont cette exigence de demander à ceux qu'ils ont placés de donner une quantité de leur salaire. Mais nous sommes tenus par des conventions internationales qui demandent que le service public, que nous sommes service public de l'emploi, puisse rendre service aux demandeurs d'emploi gratuitement. C'est une convention internationale que nous avons ratifiée, la convention 88 de l'Organisation internationale du travail, qui dit que nous devons travailler gratuitement. Or, malheureusement, beaucoup de gens pensent que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Pourtant, c'est ça l'effort que l'État a fait pour mettre au service des demandeurs d'emploi des hommes et des femmes qui travaillent seulement pour qui n'ont que leur bonne volonté pour aider ces gens-là. Et donc, ils doivent s'approcher de ceux qui les aident pour trouver l'emploi.
Et quand c'est par exemple, ils ne connaissent
pas les gens qui ont été placés, c'est faux. Je connais des entreprises.
À vous, il y a ce témoignage de Rafiki qui dit que jusqu'à présent, ils n'ont pas une
situation qui a été embauchée à partir de notre division, de notre direction provinciale de Bukavu, qui place des gens dans les organismes et même dans le commerce. Bon, il n'y a pas d'autres secteurs là-bas et je regrette. Alors, quand il y a l'autre, quant à celui qui nous a appelé pour dire qu'il y a beaucoup de diplômés qui sont capables, je n'en disconviens pas, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que les meilleurs, les bons, trouvent toujours de l'emploi parce qu'ils vont se défendre quelque part, ils vont vendre leurs services et ils seront pris. La preuve, c'est que moi, je prends comme exemple les milliers de jeunes qui ont été embauchés ici à la Monique. ce sont des gens qui sont sortis de nos universités. Ils n'ont pas eu besoin que quelqu'un vienne les placer, mais ils ont été placés. Ça, c'est une chose. La deuxième est que, il dit que pour travailler dans un cabinet ministériel, il faut être cousin de... Mais nous n'allons pas imposer au ministre de former son cabinet selon les critères que... Les critères sont celui que il faut, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais si le ministre fait son recrutement, bon, nous n'y pouvons rien, c'est un cabinet ministériel, c'est un cabinet privé, mais nous n'avons... pratiquement pas de
à écouter nos auditeurs, c'est comme s'ils font la part des choses entre être recruté dans une organisation internationale ou dans une ONG qui est différente en, carrément de au niveau de portefeuille de l'État, par exemple.
Parce
dans
que les, justement, l'ONEM l'ONEM a été créé par le Code du travail, la loi numéro 015 du 16 octobre 2002, où l'ONEM ne s'occupe que des employés sous contrat. Ce n'est pas pour les employés sous statut. C'est vrai que c'est une loi incomplète qui doit être modifiée. Nous sommes en train de chercher à ce que l'ONEM s'occupe aussi du placement dans le secteur public, dans l'administration publique, mais nous n'y sommes pas. Par exemple, l'ONEM ne s'occupe pas de recruter des magistrats pour l'administration publique. L'ONEM ne s'occupe que des demandeurs d'emploi qui veulent aller dans le secteur de ceux qui sont sous contrat, dans ceux qui contribuent au portefeuille.
Mais pourtant, le plus grand nombre d'emplois, c'est au niveau de l'État.
C'est vrai, maman, c'est vrai, mais comme je vous dis, les lois sont là, elles sont incomplètes, on doit y travailler, et généralement, l'État se conforme au cahier de charge, comme les demandeurs d'emploi le répètent et le disent tout le temps. C'est maintenant le moment de voir comment on peut modifier les articles de cette loi.
Il faut modifier cette loi, il faut que ça passe par le Parlement.
Mais absolument, il faut que ça passe par le Parlement. Il ne faut pas un arrêté, c'est une loi. D'ailleurs, c'est un décret présidentiel qui a créé l'ONEM.
Donc, il faut une loi au niveau du Parlement.
Il faut une loi au niveau du Parlement, et c'est cette loi est soumise sous forme de projet de loi par le gouvernement au niveau du Parlement. Il faut qu'il suivent aussi l'actualité. Donc, je dis que quand les emplois sont présents chez nous, les opérateurs donnent des offres d'emploi. Et généralement, ce sont soit des demandeurs d'emploi qui rechignent de prendre ces emplois-là parce qu'ils trouvent que là, ils ne veulent pas aller là-bas, les conditions ne les satisfont pas, et là, je suis d'accord avec eux, mais quand il n'y a pas beaucoup, généralement, c'est l'offre de c'est la loi de l'offre et de la demande. Là où il y a beaucoup de demandes et que l'offre est basse, il faut parfois, bon, accepter de prendre ça. Mais en fait, que pour créer ce fameux, cette fameuse expérience de plusieurs années.
Nous allons prendre Kakouli à Kalemi, Jean Freddy à Kinshasa et Claude à Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Kakouli.
Bonjour Marie Chantal Lumba.
Kakouli, on vous écoute.
Ok, moi j'ai fait commencer par donner d'abord le principe managérial qui dit on doit placer notre faux à la place qu'il faut. Mais ce que nous constatons par exemple ici à Kalemi, concernant le recrutement des gens, il y a toujours l'histoire tribale, ethnique, clanique qui bat le plein ici à Kalemi. Vous pouvez introduire votre demande avec toutes les conditions bien requises. Mais vous allez voir, lors de la sélection, ce sont les gens peut-être qui n'ont même pas passé les tests qui seront devant, qui seront au bureau là-bas, passer cet homme à l'interview et qu'on sort. Je vais illustrer un exemple en rapport avec le recrutement qui se fait dans les organismes.
Nous espérons que vous n'allez pas citer les noms des personnes ni des organismes.
Je vous en prie, ne citez pas le nom des organismes.
Oh. Non, on vous écoute, Kakouli.
Ok, je vais
poursuivre.
Vous allez voir, par exemple, il y a une ONG qui veut quitter, par exemple, Kindo pour Kalemi. Les membres de famille des gens qui vont amener cette ONG ici à Kalemi vont directement se présenter avant même 6 mois. Ils viennent déjà s'installer à Kalemi et faire d'autres activités à titre de mascarade.
En attendant l'ouverture du travail.
Oui, oui. Quand ceux qui vont amener maintenant l'organisme sera en place, ils vont donner une offre d'emploi Et mes mêmes frères là, leurs frères, seront le premier à introduire les gens. Ils ont déjà la consigne. Il y a des autres aussi qui vont aussi participer au test. Mais en fin de compte, quand on va sortir les résultats, vous allez voir sur la liste les noms seulement des membres des familles ou des frères, des gens qui ont amené l'OMC à amener ici. Et quand on fait le test, c'est pour seulement tromper l'inspection du travail.
Oui, c'est Kouli, quelles sont vos propositions pour que cela puisse changer?
Merci beaucoup. Ma proposition est la suivante. Il faut, comme j'ai commencé au début, placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pas de justice. Même si votre frère a postulé, peut-être il est licencié, c'est pas moi un choix, mais vous vous cherchez un comptable dans une organisation quelconque. Mm-hmm. Faut pas seulement le placer puisqu'il est votre frère. Prenez quelqu'un d'autre qui n'est même pas de votre tribu, puisqu'il a fait les sciences financières ou les sciences économiques, pour le placer comme comptable dans l'organisation.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Kakouli, pour votre intervention. Vous vous demandez carrément à ces personnes qui ont l'habitude de pouvoir employer les gens, d'avoir un peu plus de confiance, de pouvoir placer la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Bonjour, Jean-Freddy.
Bonjour, madame.
Oui, Jean-Freddy, on vous écoute. Quelles sont les propositions pour améliorer cette situation qui est assez difficile pour accéder à l'emploi?
Oui, madame, je vous remercie d'avoir remercié la radio Café pour l'intérêt qu'on a accordé à cette émission aujourd'hui. Mm-hmm. Mais avant de donner quelques propositions, je voulais donner quelques choses qui ne m'arrangent pas. Mm-hmm. Normalement, madame, l'invité qui est à côté de vous a dit qu'il faut avoir la carte de l'ONEM. Effectivement, pour ma part, plus précisément, j'ai déjà cette carte, ça fait plus d'une année et demie. Et quand nous étions partis chercher la carte, nous avons dit, une fois que l'opportunité se présente par rapport à votre profil, on va vous faire suivre.
Mm-hmm.
C'est pareil que depuis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait le coup d'appel, me rappelant pour venir passer un test.
Mm-hmm.
Bon, même pas ça. Il y a des entreprises ou des organismes où on vous invite pour venir déposer les dossiers. Vous déposez les dossiers, on reçoit les dossiers. On vous rappelle pour venir faire les tests. Vous faites les tests, vous réussissez même au test, et puis on programme, voilà, je vais commencer le travail tel jour.
Mm-hmm.
Et vous arrivez, on dit non, il n'y a plus de place pour vous, parce qu'il y a quelqu'un qu'on a recommandé à partir de tel ministre ou de telle autre autorité. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire qu'on a le souci de jeunes diplômés qui viennent, qui viennent de sortir de l'université, qui ont besoin de l'emploi?
Oui.
Je ne parle pas à cette matière-là.
Oui, au regard de toutes ces difficultés, Jean-Frédéric, quelles sont vos propositions?
Oui, mais ce que moi je voulais proposer, puisqu'avant d'arriver là, je voulais aussi dire qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont dans beaucoup de nos bureaux ici qui devaient aller à retraite.
Mm-hmm.
D'accord. Quel gouvernement envoie les personnes âgées, disons, qui ont eu à quel âge de la retraite, à la retraite, ils donnent leur argent, comme ça on laisse les postes des encadres pour les jeunes diplômés.
Mmh.
Alors, aussi, créer une structure de formation, comme madame l'a proposé, qu'il y a beaucoup de nouveaux candidats qui arrivent, mais qui ne savent pas peut-être présenter les CV ou la liste de motivation. Alors, créer cette structure de formation afin que les nouveaux jeunes gens qui sont en quête d'emploi puissent se conformer à cela pour qu'ils ne soient pas déclassés lorsqu'ils sont devant les personnes qui doivent les poser des questions par rapport à l'emploi qu'ils cherchent.
Merci.
Voilà, les quelques propositions que j'ai.
Merci Jean-Freddy pour votre intervention à partir de Kinshasa sur l'accès à l'emploi qui est assez difficile. Bonjour Jean-Claude. Jean-Claude, plutôt Claude. Claude, il nous appelle à partir de Kinshasa. Bonjour Claude.
Bonjour madame, enchantée.
Oui, et Claude, on vous écoute. Est-ce que vous êtes du même avis de votre précédent qui a pensé qu'effectivement il y a beaucoup de problèmes et que pour d'abord avoir le premier entretien, c'est tout, ça prend beaucoup de temps et concernant en fait tout ce qu'il y a autour de l'accès à l'emploi?
En tout cas, madame, je suis très content de cette opportunité que vous m'accordez dans votre émission. Et vraiment avec un constat, maire, dans notre pays, Je voulais vraiment m'attarder sur trois secteurs. Vous avez le responsable de l'ONEM au studio. Madame au studio. Mais sur place, à Lubumbashi, où nous sommes partout ailleurs, je vous dis, l'ONEM n'a pas sa raison d'être. Et donc, c'est une histoire, je dirais, de facettes. L'ONEM ne fait pas son travail à Julien recommandé. Je parlerai premièrement de la sensibilisation. D'ailleurs, les jeunes qui terminent l'université, ils ne sont même pas sensibilisés au niveau d'abord de la sensibilisation. Les jeunes ne sont pas informés que l'ONEM existe. Quand même, certains parmi nous qui ont des cas de l'ONEM, ça fait 5 ans. Quand il y a par exemple dans une entreprise, donc vous ne sentez pas que l'ONEM joue son... qu'ils sont là, ils ne font rien,
oui.
Et ce sont le propriétaire de l'entreprise et qui joue toute la politique de
l'entreprise. Quelles sont vos propositions?
Moi, mes propositions sont les suivantes. Il faut que l'ONEM collabore avec le ministère de l'Emploi. Il faut connaître le besoin réel de la population. Actuellement, pour avoir de l'emploi, il faut connaître l'informatique, il faut connaître l'anglais. Mais quand nous voyons dans le programme de l'enseignement, il n'y a pas les notions d'informatique.
Mais que l'on vient d'insérer dans le programme national informatique dans certaines écoles.
Ouais. Et puis d'aider, on doit aussi voir la politique de la politique salariale. Parce que au niveau des entreprises, quand vous allez, on vous dit non, l'État a mis nos combien? Les fonctionnaires de l'État, on le fait 39 000 francs. Mais quand un étranger vient, justement, il va emboîter ses pas, il va commencer à maltraiter les gens pour leur donner 50 $, 70 $ à la fin du mois. Par rapport au vécu quotidien, vous voyez que c'est l'ONEM et le gouvernement qui sont à la base de cette situation.
Merci beaucoup, Claude, pour votre intervention. Il faudra aussi ajouter que l'ONEM est sous tutelle, du ministère de l'Emploi et des prévoyances, prévoyances sociales. Donc, ça signifie que l'ONEM travaille en collaboration avec ce ministère-là. Merci beaucoup, Claude, pour votre intervention.
Parole aux auditeurs.
Encore une fois, plusieurs questions, Madame Angélique Kikoudi. Par exemple, notre auditeur qui a voulu savoir, en fait, le temps qui s'écoule entre l'acquisition de la carte et le premier appel pour un entretien, pour son boulot. Ça peut prendre combien de temps, Madame?
Je vais y aller par une anecdote. Moi-même, je suis allée au bureau du placement. J'ai sorti dans la base de données des exigences qu'une entreprise demandait. Nous avons sorti 38 personnes qui répondaient aux critères que l'entreprise demandait. Ils ont laissé leur numéro de téléphone et tout, nous les avons appelés. Vous savez, sur 38, combien ont répondu au téléphone?
Combien?
5 seulement. Les autres, c'était soit qu'ils ont changé de numéro de téléphone, soit que le poste de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Moi, je pense qu'il y a une vigilance de la part des demandeurs d'emploi qu'ils doivent avoir. C'est vrai que l'ONEM peut les placer, mais ils peuvent aussi, à partir du moment où ils ont la carte de l'ONEM, parce que c'est une obligation qu'avant d'être recruté, on vous demande la carte de l'ONEM, ils peuvent aussi chercher. S'ils peuvent trouver, c'est une bonne chose. Mais l'ONEM ne crée pas les entreprises. L'ONEM ne crée pas les ONG qui emploient. L'ONEM ne fait que l'intermédiation entre ceux qui existent et ceux qui demandent du travail. Donc, si votre profil est demandé après 2 mois, après 1 jour, vous serez présenté après 1 mois, après 1 jour. Si votre profil traîne parce que sur le marché, la demande de votre profil n'est pas évidente, ça va traîner un peu.
Donc, de ce côté-là,
vous recommandez aux gens d'être polyvalents, en fait.
Nous recommandons aux gens d'être polyvalents, mais nous recommandons aux gens d'exploiter tous les créneaux. Nous n'avons pas que le créneau des emplois formels où les gens doivent aller demander du travail. Il y a l'auto-emploi, l'auto-entreprise, celui qui veut ouvrir son petit cabinet de consultance, de médical, dans la technologie, il peut le faire. Il est aussi un emploi. Il aura des revenus, mais beaucoup de gens peut-être n'ont pas les moyens de le faire. Et ça, c'est des choses sur lesquelles le ministère sous la tutelle duquel nous nous trouvons est en train de travailler. Donc, le monsieur Kakouli qui dit que les tests, les interviews sont factices, c'est pas vrai, les gens ont déjà pris leurs membres de famille, mais l'ONEM ne peut pas gérer les rumeurs. C'est vrai, il y a beaucoup de choses, on sait. Ça existe, c'est comme ça. Mais si personne ne les dénonce, si personne ne dit c'est tel et tel à l'inspection du travail ou à la police ou même
mais
à la justice...
Mais en cas de dénonciation, est-ce qu'il y a des...
Aurait des sanctions, madame, qui peuvent aller jusqu'à la fermeture de cette entreprise-là? Jusque-là, personne ne dénonce parce qu'on se dit, ben, écoutez, s'il y a un problème, qu'est-ce que je vais devenir? Mais... L'ONEM ne peut pas gérer les rumeurs. Il faut des preuves, il faut que les gens aient dénoncé la chose.
Mm-hmm.
Alors, le ministre recommande la mise en retraite des personnes âgées, mais il a vu, on a déjà commencé, les entreprises privées le font déjà.
Mm-hmm.
Par exemple, la Banque centrale, vous arrivez à 30 ans pile le jour de vos 30 années de prestation de service, vous allez en retraite.
Et
d'autres
en fait,
entreprises le font et l'État a commencé à le faire.
La formation,
nous
voilà.
Sommes en train d'organiser cela. Nos directeurs provinciaux vont revenir parce qu'on fait la restructuration. Ils vont venir prendre les éléments.
Mais
il y a aussi des opérateurs privés qui le font et ils doivent, les demandeurs d'emploi ne doivent pas avoir.
On voudrait savoir est-ce que c'est possible aussi qu'on puisse harmoniser les CV parce que apparemment il y a aussi un problème pour la présentation
pendant cette formation. On leur apprend comment présenter un curriculum vitae qui plaise aux offres. Aux entrepreneurs. Parce qu'il ne faut pas écrire n'importe quoi. Par exemple, vous n'allez pas postuler là où on n'a pas dit qu'il y a du travail. C'est sûr que vous ne serez pas pris. Il faut qu'il y ait une offre, il faut présenter votre CV par rapport au poste.
Nous allons revenir à vous, madame, pour conclure et pour revenir sur celui de Kinshasa, c'est par nos auditeurs. Monsieur Maître Vincent de Moba, bonjour. Vincent? Vous êtes à Moba, on n'arrive pas à vous contacter. Nous allons directement avec Pierre, qui est le dernier auditeur. Vincent, c'est Pierre ou Vincent?
Je vous écoute.
C'est
Maître Vincent.
C'est Maître Vincent. Alors Pierre, vous attendez quelques minutes. Vincent, on vous écoute pour conclure, en fait, en une minute, parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Quelles sont vos propositions?
Oui, en tout cas, ma proposition, c'est que l'ONEM, en tout cas, soit doit fermer, soit doit améliorer justement son travail. Parce que qu'est-ce que nous avons constaté? L'ONEM est là pour pouvoir canaliser les demandes de d'emploi vers les entreprises où se trouvent un besoin d'employés. Mais qu'est-ce qui se fait? Les mêmes structures qui publient et qui envoient des demandes pour de l'ONEM publient aussi les mêmes offres et d'autres personnes postulent. Finalement, la carte de demandeurs que les agents ont trouvé auprès de l'ONEM sert à quoi? Parce que finalement, en fin de compte, qu'est-ce qu'on constate? On vous appelle, vous intrigez le dossier à l'ONEM, l'ONEM transmet le dossier, et en fin de compte, vous trouvez que votre dossier n'est même pas sélectionné. Et pourtant, au niveau de l'ONEM, il a trouvé que votre dossier était un bon dossier, il répondait au profil de l'employeur.
Oui, merci beaucoup, Vincent. Vincent, nous sommes déjà à la fin, nous nous excusons vraiment, nous prenons aussi Pierre qui peut s'exprimer en une minute. Bonjour Pierre.
Bonjour, ok madame, je voulais seulement signaler par rapport à l'emploi. Nous remarquons actuellement que la majorité des jeunes qui terminent récemment les universités, les études au niveau des universités, quand on offre quelque part, on demande de remplir les CV. Maintenant, les CV, supposez quelqu'un qui vient de terminer cette année, il termine tout de suite cette année et vous le demandez d'avoir une expérience de 2 ans, de 3 ans dans les ONG, dans les entreprises, dans les sociétés publiques, partout, ce sont des exigences qu'on est en train d'exiger. Maintenant, je me demande, est-ce que ces jeunes auront du travail par quelle façon? Parce qu'à ce moment-là, nous comprenons que pour les gens qui viennent de décrocher leur diplôme.
Merci beaucoup, Pierre, pour vous. C'est une question de savoir pourquoi on pose des questions concernant, pourquoi on exige, en fait, plusieurs années d'expérience à certaines personnes, à certains étudiants qui viennent de terminer leur année. Nous retournons la parole à Madame Kikoudi pour conclure et pour donner certaines réponses aux préoccupations de nos auditeurs.
Oui, je vais commencer par Monsieur Pierre de Kindu. La question est pertinente. C'est pour ça que, concernant cette question d'expérience, l'ONEM et surtout le gouvernement est en train de vouloir travailler pour que les stages professionnels qu'on demande à chaque étudiant de faire pendant les vacances puissent compter pour l'expérience. Si vous avez accompli en 6 ans ou en 5 ans, même 10 mois, ça fait une année à peu près, on peut considérer que vous avez une année d'expérience à condition que vous ayez fait dans la même filière tout ce temps-là. Donc, c'est encore une bataille, un défi que nous sommes en train de chercher. Mais les étudiants aussi doivent faire un effort pour être attentifs quand ils vont en vacances. De réussir d'abord en première session, parce que ça vous permet d'avoir le temps de passer votre stage professionnel. Même le stage de dernière année de 2 mois peut être cumulé pour compter pour de l'expérience. Par rapport à Maître Vincent, je suis vraiment désolée que tout juriste qu'il soit, qu'il ne voit pas la pertinence de l'existence de l'ONEM. C'est vrai que l'ONEM donne des cartes, mais les cartes, c'est aussi pour compter le nombre de demandeurs d'emploi que nous avons. Mais aussi, surtout, quand vous aurez trouvé l'emploi et que votre employeur va nous remettre la carte, on saura que vous êtes passé par l'ONEM d'abord. Et puis, on saura avec votre contrat s'il est, si c'est un contrat qui est conforme à la loi, parce que beaucoup de demandeurs d'emploi se font avoir de ce côté-là. Et l'ONEM a ce devoir de surveillance avant de viser votre contrat. Il doit se rendre compte.
Madame, nous sommes déjà arrivés carrément à la fin de cette émission. En tout cas, merci beaucoup, Madame Kikoudi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux auditeurs pour leurs interventions. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau numéro. Parole aux auditeurs. En prélude des festivités du 50 ans d'indépendance, le gouvernement provincial de Kinshasa interdit la circulation des mineurs après 19h30. Comment appréciez-vous cette mesure selon vous? Que faut-il faire pour encadrer les mineurs dans votre milieu? Vous pouvez réagir dès à présent. Merci et à la prochaine.
Il est 12h.
Radio Okapi. Okapi.
Le projet de loi sur le statut des magistrats confiés d'opérer à la commission politique, administrative et judiciaire du Sénat, celle-ci a 5 jours pour examiner ce projet très contesté par le syndicat des magistrats.